quand on parle d'égalité aux États-Unis, c'est l'égalité des chances, c'est la possibilité pour chacun de réussir à égalité, par exemple dans l'accès à la justice, dans l'accès aux droits. Mais l'égalité sociale, qui est une valeur très largement répandue, notamment dans les pays européens, eh bien, n'est pas une valeur fondamentale de l'Amérique. Il y a également une tradition de welfare state, notamment depuis Wilson et puis depuis le président Roosevelt. Mais c'est un pays qui vit de manière moins embarrassée que les sociétés européennes l'existence en son sein d'inégalités socio-économiques.
Alors, par rapport au nombre de pauvres, on imagine, hein, là, évidemment, avec la crise, qu'il y a plus de chômage. Mais est-ce qu'il y a des raisons, disons, plus structurelles, plus anciennes pour expliquer cette pauvreté ?
Oui, quand Barack Obama devient président des États-Unis, il y a un certain nombre, 30 millions d'Américains qui n'ont pas accès à l'assurance santé, dont 9 millions d'enfants pauvres. Et là, il s'agit en fait des insuffisances de l'État-providence américain. Le président Lyndon Johnson, en 1965, avait mis en place Medicare et Medicaid, c'est-à-dire une assurance santé pour les plus pauvres, une assurance santé pour les plus âgés. Donc, ceux qui sont les plus fragilisés, eh bien, finalement, ce sont les classes moyennes inférieures, ceux qui ne sont pas suffisamment pauvres, mais trop pauvres pour pouvoir se payer une assurance santé privée. Donc il y a des raisons structurelles qui tiennent en fait à l'organisation de l'État américain. L'État-providence américain est bien en deçà de ce que l'on connaît, notamment en Europe.
On a l'impression, quand on parle de pauvreté là, qu'on parle beaucoup de santé. Et ça veut dire quoi? Que les pauvres sont ceux qui n'ont pas accès aux soins, mais qu'ils ont un toit ou de quoi manger?
Quand vous parlez de 45 millions d'Américains qui sont pauvres, eh bien c'est aussi 40 millions d'Américains qui vivent avec des bons d'alimentation. C'est l'équivalent de la population française au début des années 70. C'est aussi des familles qui vivent dans des camping-cars, des enfants qui dorment dans des voitures. Donc c'est pas uniquement l'accès aux soins, c'est l'accès eh bien à l'école, l'accès à une alimentation équilibrée. Michelle Obama, c'est lancé d'ailleurs dans une croisade contre l'obésité. C'est un des éléments de la pauvreté aux États-Unis.
Et est-ce que ça touche des populations en particulier ?
Alors même que les États-Unis, sur bien des aspects, sont sortis de la situation des années 50-60 avec une ségrégation raciste, avec un niveau de discrimination très élevé, mais on constate encore dans les principales minorités, les hispaniques et les noirs, des chiffres beaucoup plus importants de pauvreté. Et je prends un indicateur, le nombre de noirs en prison et sans comparaison avec le nombre de noirs dans la population, 50% dans le couloir de la mort pour 10% seulement de la population américaine. Alors ça s'explique pas pour des raisons de racisme, ça s'explique pour des raisons sociales. Vous savez que le système judiciaire américain est un système où l'argent a toute son importance parce qu'il n'y a pas de juge d'instruction pour faire une contre-enquête par rapport au procureur. Il faut un avocat qui dispose de moyens financiers importants pour payer notamment des détectives. Beaucoup de Noirs ont des avocats commis d'office et ne peuvent pas rivaliser avec les armes du procureur, ce qui explique qu'ils sont plus nombreux à être dans les prisons et plus nombreux à être condamnés à mort.
Vous parliez tout à l'heure d'égalité des chances. Est-ce que il y a une égalité des chances pour sortir de la pauvreté, puisque on a l'impression quand même que les minorités c'est depuis toujours et que ça va continuer.
Alors, il ne faudrait pas dresser un bilan catastrophiste des minorités. La réalité au cours des 30 dernières années, ce qu'on a appelé d'ailleurs les 30 glorieuses afro-américaines, c'est l'accession des Noirs à la classe moyenne. Donc la situation de ces minorités, même si elle est encore en deçà de celle de la moyenne des Américains, eh bien elle s'est considérablement améliorée depuis les années 60-70. Maintenant, la crise est passée par là, et finalement, c'est pas retour à la case départ, mais beaucoup de gens qui avaient accès à ce rêve américain, à ce confort qui est inscrit même dans la déclaration d'indépendance américaine, hein, le droit au bonheur, et quand les Américains parlent de bonheur, c'est un bonheur aussi matériel. Eh bien, ces Américains aujourd'hui souffrent de la crise. Et lorsque l'on parle de crise économique en Europe, cette crise économique met plus de temps à devenir une crise sociale parce que le filet social est plus resserré, les dispositifs sociaux sont plus présents. Aux États-Unis, une crise économique se transforme plus rapidement en crise sociale du fait de l'absence de ces dispositifs.
Les minorités sont touchées, mais est-ce qu'il y a aussi des pauvres blancs? Est-ce que c'est une pauvreté familiale ou est-ce que c'est une pauvreté individuelle?
C'est une pauvreté qui touche des familles et on le voit notamment dans les vieux états industriels, notamment l'Ohio, l'Illinois, le sud de l'Illinois, des régions qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille, qui ont fait la révolution industrielle et qui sont touchées par la crise économique de manière plus violente que le reste des États-Unis. Mais c'est aussi, et c'est surprenant, des régions qui étaient jusqu'alors considérées comme les plus puissantes des États-Unis. Je parle de la Californie. Vous avez maintenant en Californie des étudiants, et là on parle de pauvreté individuelle, qui ont des difficultés pour se loger dans des universités aussi prestigieuses que Berkeley et qui vivent dans leur voiture.
Aux États-Unis, on a vu que l'État n'était pas forcément très présent pour aider les pauvres, de la classe moyenne en particulier. Qui leur vient en aide?
Depuis quelques années, de plus en plus de films et de séries évoquent cette pauvreté. On peut penser par exemple à La Recherche du Bonheur, où c'est l'histoire en fait de quelqu'un qui, suite à un divorce, eh bien, perd tout. Et donc il combat à la fois pour lui, mais aussi pour son fils. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est de montrer que les valeurs américaines sont réactivées. La recherche du bonheur, c'est la capacité pour chaque individu de se sortir de ses difficultés, mais également grâce à des réseaux de solidarité communautaire. Hein, parce qu'aux États-Unis, la dimension communautaire de l'aide est beaucoup plus présente. Les États-Unis sont un pays à majorité protestante, où la dimension de charité est très importante. Lorsque vous êtes riche aux États-Unis, il est quasiment obligatoire que vous consacriez une partie de votre richesse à l'aide, à la communauté, à l'engagement aux côtés de la communauté, la dimension de solidarité qui est beaucoup plus présente aux États-Unis que dans les sociétés européennes. Donc on peut être riche, les Américains ne se choquent pas de l'inégalité économique, mais ils se choquent du désintérêt des plus riches pour les plus pauvres.
Et donc là, on est dans une période quand même préélectorale, on n'est pas loin des midterms. Est-ce que la pauvreté est un enjeu électoral?
Pauvres des Américains ne votent pas. Les plus pauvres font partie des abstentionnistes et d'ailleurs ceux des Américains qui bénéficient de l'assurance santé mise en place par Barack Obama, eh bien, ça ne sera pas pour Barack Obama son crédit politique parce qu'il n'y aura pas de retour électoral de cette Amérique qui n'a pas cette capacité de voter parce que quand on ne joint pas les deux bouts, eh bien, on ne voit pas d'avenir nécessairement dans le vote dans un président ou dans un autre. Et c'était une partie de l'échec de Barack Obama, c'est de ne pas avoir suffisamment montré à l'Américain moyen que les dispositifs qu'il mettait en place, notamment pour les plus pauvres, servaient aussi les intérêts de la classe moyenne. Vous savez qu'aux États-Unis, même si ça peut apparaître choquant pour un Européen, la jalousie sociale se fait à l'inverse. Dans les pays européens, c'est le plus pauvre qui peut reprocher aux plus riches sa pauvreté. Aux États-Unis, le cœur du projet étant la possibilité de réussir, tout dispositif social qui me fait être taxé ou qui m'empêche, eh bien, est considéré comme une entrave à ma capacité à m'élever socialement.
Et est-ce que le plan de retour à l'emploi du président Obama, lui, peut convaincre les classes moyennes ?
Le président Obama, dans son plan de relance, eh bien, il a mis l'accent sur cette pauvreté et sur la nécessité de retour à l'emploi parce que finalement, cette société américaine qui a des dispositifs sociaux moins importants que ce qui existe en Europe a besoin de croissance économique et a besoin de l'emploi. Cette société n'est pas conçue pour vivre avec 10% de chômage. On le voit notamment au niveau des allocations chômage, hein, qui n'ont rien de comparable avec les allocations chômage des principaux pays qui disposent en Europe d'allocations à hauteur, hein, de ce qui permet aux gens de vivre. Aux États-Unis, vous perdez votre emploi, eh bien vous perdez tout. Le président Obama, la semaine dernière, a notamment décidé de refondre ce dispositif d'allocation chômage. Il a prévu le fait que les personnes qui vivaient d'un temps partiel puissent bénéficier encore de ces allocations. C'est simplement un dispositif qui permet le retour progressif à l'emploi.
Comment est-ce que les républicains, eux, se positionnent par rapport à l'électorat pauvre?
Pour ceux qui qui votent, les classes moyennes inférieures, elles ne sont pas uniformément démocrates. Il y a également, vous parliez tout à l'heure du blanc, du Midwest, du Nord-Est également des États-Unis, eh bien beaucoup, depuis les années 80, depuis notamment Ronald Reagan, votent républicains. Donc c'est également un enjeu électoral d'avoir un discours sur la pauvreté, sur notamment ces classes moyennes inférieures qui subissent le déclassement social, qui ne voient pas d'avenir pour leurs enfants. Ça sera au cœur de la campagne américaine et on le voit bien, deux solutions se font face. La solution des démocrates qui consistera à dire face à cette pauvreté, eh bien, nous préservons, nous sommes les remparts pour les acquis sociaux, notamment ceux mis en place par Roosevelt et surtout par Lyndon Johnson, tandis que les républicains, eux, eh bien, sont prêts à détruire Medicare, à détruire Medicaid. Et puis de l'autre côté, des républicains qui, eux, auront une solution différente, qui expliqueront que ce n'est pas par la hausse des recettes que le problème de la dette notamment se résoudra, mais c'est par une baisse des dépenses. Et cette baisse des dépenses, c'est aussi une baisse des impôts. Donc ils expliqueront que c'est la baisse des prélèvements qui permettra de relancer la machine économique et donc résoudre ce problème pour chaque Américain. Mais alors que les démocrates mettront l'accent sur la société, les républicains mettront l'accent sur l'individu. Et l'avantage de cette campagne électorale, c'est qu'elle proposera aux Américains un choix extrêmement clair.